voix nue. Cette semaine, Gérard Courtois rencontre Jean-Pierre Chevènement. Ce soir, Belfort-Paris en passant par l'Algérie.
Jean-Pierre Chevènement, bonjour et merci de nous recevoir dans votre bureau de la Fondation Respublica que vous avez créé en 2005 et dont le titre, La chose publique, la République, résume au fond l'engagement de toute une vie. Au moment d'engager avec vous cette conversation que nous allons prolonger jusqu'à vendredi, j'avoue être un peu inquiet. Parce que retracer le parcours qui, depuis une cinquantaine d'années, a fait de vous l'une des voix et des personnalités les plus singulières de la vie politique française, relève de la gageure. Tant ce parcours est dense, et tant le travail de réflexion qui l'a accompagné a été intense, comme en témoignent les 24 livres que vous avez publiés au fil des années pour défendre vos idées. De la politique, vous avez tout connu, sans souci des conformismes ni des conforts de carrière. Depuis les années 60, vous avez été au cœur de la reconstruction du Parti socialiste et de l'aventure de l'Union de la gauche, avec ses joutes doctrinales, ses manœuvres d'appareil et ses offensives de mousquetaires, avec ses espoirs qui étaient grands et ses déceptions qui n'ont pas été minces. Après l'élection présidentielle de François Mitterrand en 1981, puis la victoire de Lionel Jospin en 1997, vous avez connu la responsabilité du pouvoir, successivement au ministère de la Recherche, de l'Industrie, de l'Éducation nationale, de la Défense et enfin de l'Intérieur. Le tout ponctué de quelques retentissantes démissions quand les choix des gouvernants heurtaient par trop vos convictions et votre formule est restée dans les annales « Un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne ». Vous avez connu des périodes de marginalité ombrageuses et des résurrections spectaculaires, sans oublier l'enracinement dans votre fief de Belfort, une candidature présidentielle pour le moins décoiffante en 2002, et depuis une quinzaine d'années, un rôle de vigie toujours aussi attentif à la marche du monde et à celle de la France. À vos yeux, la politique, c'est l'histoire en train de se faire, et pendant ce demi-siècle, faire avancer l'histoire a été pour vous une exigence à la fois intellectuelle et, me semble-t-il, existentielle. Mais au commencement de l'histoire, il y a la vôtre. Vous êtes né à Belfort le 9 mars 1939, vos deux parents étaient instituteurs. Comment cette date de naissance et comment ce milieu familial vous ont-ils façonné? Quel a été au fond le paysage de votre enfance et le moment de votre enfance?
Vous savez, je suis un enfant de la campagne. J'ai été élevé dans ces régions limitrophes de la Suisse. On était à quelques kilomètres de la Suisse. Seule la vallée du Doubs nous en sépare. Avec ses grandes forêts de sapins, ses paysages ouverts, ces régions peuplées de vaches et de quelques rares villages dont la flèche monte vers le ciel.
Donc une enfance campagnarde.
Une enfance à la campagne, marquée par l'absence de mon père, puisque mon père a été fait prisonnier en 1940, donc je ne l'ai pratiquement pas connu.
Jusqu'à l'âge de 6 ans, il est resté en captivité.
Et il est resté en captivité jusqu'à l'âge de 6 ans. Mmh. Une captivité d'abord très dure dans des carrières, où il a contracté une tuberculose, puis ensuite dans des fermes en Basse-Saxe.
Vous aviez des nouvelles? Votre mère avait des nouvelles?
Oui, on communiquait par lettre, colis de la Croix-Rouge. Ma mère glissait dans les petites meules de comté des boussoles destinées à faciliter son évasion. Je revois cela encore. Mais nous étions marqués par l'occupation. Les Allemands, pendant un temps, ont occupé l'étage de l'école où nous habitions. Nous étions confinés au rez-de-chaussée. Ma mère et moi, disons que ce qui m'a marqué aussi, c'est ma grand-mère paralysée à la suite de l'incendie de ses trois maisons le 18 juin 40 par la première colonne de l'invasion allemande que les soldats français avaient jugé utile de bloquer. Donc l'occupation, la présence de ceux qu'on appelait les Boches à l'époque a pesé lourdement. Parce qu'on reconstruit a posteriori cette période, mais la France de 1940 s'effondre. Et c'est un traumatisme majeur pour ma mère. Et pour moi, qui suis dans le tête-à-tête avec ma mère, j'entends ma mère décrire la débâcle telle qu'elle l'a vue et développer un certain nombre de considérations sévères sur les chefs militaires, sur l'armée française, sur même les officiers. Hein. Et toujours avec cette hostilité viscérale aux Boches, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et ouais, tout le monde les appelle comme ça. Quelquefois, on les appelle les doryphores, ces insectes qui vivent sur les pommes de terre, parce qu'ils vivent sur le pays. Mais enfin, j'ai le souvenir de cette occupation qui m'a évidemment marqué, parce que je sentais qu'il nous était arrivé quelque chose. Ma mère, plutôt que de me confier aux petites bonnes du voisinage, avait décidé de m'emmener avec elle dans sa classe.
Alors ça a fait de vous vraiment l'enfant de l'école républicaine.
Alors, il est difficile
d'être plus dans le
jus de l'école que je l'étais. Alors l'école républicaine, oui, parce que ma mère était d'esprit résistant. Elle a même été convoquée par la Gestapo pour avoir rédigé un tract avec la postière, Mademoiselle Jost.
Un tract qui
stigmatisait le régime de Pétain, qui était la solde de l'occupant, etc. Donc elle s'est fait sérieusement remonter les bretelles, si je puis dire.
Mais pas davantage.
Bon, je pense que les Allemands avaient autre chose à faire que de s'occuper du menu fretin. Donc elle a eu un avertissement, elle avait été convoquée à Montbéliard, et je pensais qu'elle pouvait me quitter pour toujours. On m'avait mis en pension chez une voisine, Madame Journeau, donc je revois ses adieux déchirants. Bon, en fait, elle est revenue. Donc tout cela a pesé incontestablement, mais en même temps, c'était l'école.
C'est presque une image d'Épinal de la méritocratie républicaine. C'est-à-dire vos grands-parents étaient fermiers, vos grands-pères étaient fermiers et gardes forestiers, vos deux parents instituteurs, et vous allez passer le baccalauréat, ce qui à l'époque était le privilège de même pas un jeune Français sur 10. Donc il y a vraiment une...
On peut voir ça comme ça, mais du côté de ma mère, c'était des gros paysans qui se faisaient appeler Sire de Courcelles, parce qu'ils avaient la plus grosse maison du village de Courcelles. Les choses étaient très différentes du côté de mon père. Son frère, qui est le seul qui exerçait un mandat politique, était conseiller municipal socialiste du Russet. C'est un ouvrier horloger, comme mes tantes, qui passaient leur temps à compter les pièces de montre et qui travaillaient pour un très modeste salaire, je peux vous le dire. Donc, j'avais une famille qui était vraiment ouvrière, qui savait ce qu'étaient les contraintes de la vie quotidienne, et l'autre branche de ma famille était certainement plus aisée.
Toujours est-il que ce liquide amniotique de l'école, dans lequel vous avez baigné, fait que vous êtes devenu un bon élève, et même plus précisément un très très bon élève. Ensuite,
vous avez... Je suis devenu un bon élève, mais c'est pas le fait de la pédagogie directive de ma mère. Ma mère considérait que j'étais trop en avance pour mon âge, qu'il était même regrettable que je sois tellement en avance. J'avais appris à lire à 4 ans, et je dévorais les livres de sa bibliothèque. Donc j'étais déjà dans les livres très jeune. Et ma mère était évidemment une institutrice d'un type très particulier, formée par l'école normale, avec des principes très arrêtés. Je sentais quand même le poids de l'autorité, il fallait l'appeler madame.
Ah oui, vous l'appeliez madame.
Je devais l'appeler madame.
Mais dans la classe.
Dans la classe.
Pas à la maison.
Pas à la maison, mais pas à la maison, non, mais ma mère avait quand même des comportements qui étaient d'un personnage d'autorité.
Et en tout cas, vous devenez donc un excellent élève, vous collectionnez les prix d'excellence, vous collectionnez, c'est excessif, mais les mentions très bien au bac, les accessites au concours général. On a l'impression que vous avez traversé cette période un peu comme Fabrice à Waterloo, sans difficulté. Avec plaisir?
Je dirais avec facilité, parce que ça m'intéressait. J'étais curieux. Ma mère me disait toujours, est-ce que tu peux être fatigant, parce que je lui posais sans cesse des questions. Donc c'est le leitmotiv que j'ai entendu pendant toute mon enfance, que tu peux être fatigant avec tes questions.
Mais elle y répondait.
Elle y répondait. Je la vois sur le vélo qui nous conduisait au village voisin où était ma famille paternelle. Et dans une petite côte, je lui posais des questions. Donc elle était debout sur le pédalier. Elle me disait, écoute, tu es fatigant. Tu es fatigant.
Vos premiers choix, on est au moment du baccalauréat, vos premiers choix, c'est vous qui les faites. Et vous les faites, au fond, contre les conseils qui vous sont donnés par vos maîtres du lycée de Besançon, qui vous voient déjà élève à l'école normale supérieure à rue d'Ulm. C'est le temple de l'élitisme républicain. Et vous, vous choisissez Sciences Po, qui est, au fond, le repère, le temple des fils de bonne famille. C'est une transgression. C'est comment vous vient ce virus de la politique, du goût pour la politique?
Alors, pourquoi ce virus pour la politique? Ça, c'est assez bizarre. Je pense que c'est le fruit de la guerre, parce que j'ai senti que l'histoire s'introduisait dans notre quotidien. Et pour moi, la politique, c'était une manière de participer à l'histoire. Et je sentais qu'il était arrivé quelque chose à la France et j'avais envie de participer à son redressement. Pour moi, c'était quelque chose de structurant. Enfin, c'était l'idée que je me faisais de mon avenir. Et quand j'ai appris qu'il y avait une science de la politique, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. S'il y a une science de la politique, je dois l'acquérir. Alors, mon proviseur, M. Genet, m'a convoqué, m'a dit, écoutez, vous avez eu un exercice de concours général de grec ancien, de géographie. Là, vous entrez à normal, je vous assure que... En plus, vous serez heureux. Vous serez heureux alors que si vous faites Sciences Po, vous allez être dans un milieu qui n'est pas le vôtre. Vous serez quoi? Chef de service. Mais vous serez très isolé et vous serez malheureux. Alors que si vous faites normal, vous pouvez être un des meilleurs hellénistes de France. Et si vous ne voulez pas être professeur, vous pourrez être archéologue. Alors cette perspective ne m'a pas séduit.
Et rétrospectivement
Eh bien, je pense que mon proviseur avait raison.
En tout cas, votre proviseur avait raison sur un point, c'est que Sciences Po, pour un petit provincial, je mets petit entre guillemets, boursier qui plus est, ça ne devait pas être une institution extraordinairement facile d'accès, culturellement.
Non, c'était même très dur de se retrouver sans aucun appui à Paris. Heureusement, ma mère connaissait bien l'aumônier du lycée Victor Hugo, l'abbé Kammerer, qui m'a introduit au 61 rue Madame, la maison diocésaine des étudiants catholiques.
C'est là. Alors, que vous êtes.
J'étais
vous
en train de perdre la foi, il faut bien le dire, sous l'influence d'un de mes professeurs, enfin de plusieurs de mes professeurs, mais auxquels je veux quand même rendre hommage parce qu'ils ont formé mon esprit. Et je dois beaucoup à mes parents, bien sûr, qui se sont sacrifiés pour moi, à mes professeurs. Mais quand je suis arrivé à Sciences Po, j'ai senti que je ne faisais pas du tout partie de ce monde. Il y avait un essaim de jolies filles sur la péniche de Sciences Po, et tout autour de jeunes messieurs.
Le banc qui est dans le hall central.
Oui, le banc qui est sur lequel se lient les conversations. Et moi, j'étais totalement... C'était la deuxième fois que je venais à Paris. J'étais venu à Paris pour le concours général, on m'avait offert un portrait des studios Harcourt.
Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, vous étiez en train, dites-vous, de perdre la foi. Vous l'aviez eu, peu ou prou?
Oui, j'avais été élevé dans la religion. Enfin, dans la religion, à partir de 7 ans, parce que ma mère n'aimait pas trop les curés. Mais enfin, moi j'avais fait le catéchisme, et j'ai même été reçu premier au concours de catéchisme.
Vous étiez tout le temps premier.
Du département du Doubs. Non, c'est tout à fait particulier parce que ma mère, longtemps après, peu de temps avant sa mort, m'a dit, je me suis aperçu que tu étais au-dessus de la moyenne quand tu as été reçu premier au concours de catéchisme. C'est quand même une réflexion assez curieuse pour une institutrice laïque.
Laïque. Vous avez qualifié, je me souviens plus où, Sciences Po de l'école des singes. Mais vous ne manquiez sûrement pas d'agilité, parce que vous êtes sorti, comme d'habitude, en tête de promotion.
Oui, c'était ces petits camarades qui singeaient déjà leurs parents à la tête de leur conseil d'administration. Disons que j'avais un sentiment quand même de profonde relégation sociale. Heureusement, j'ai été bon, mes résultats étaient bons, je connaissais beaucoup de choses. Donc j'arrivais à m'affirmer sur le plan des études. Mais autrement, c'était... un monde assez difficile, enfin, dans lequel j'essayais de me faire ma place. Et, somme toute, j'ai gardé un bon souvenir de Sciences Po, surtout parce que j'ai fait un travail de recherche sur l'Allemagne, le nationalisme français devant l'Allemagne, à trois périodes. Donc j'ai fait ce travail qui m'a amené à lire beaucoup dans les sous-sols de la très belle bibliothèque de Sciences Po. Et puis j'ai gardé le souvenir de quelques séminaires prestigieux, celui de Bloch-Lenné, Nora, Saint-Jour, qui me donnaient le sentiment que je pouvais réussir et égaler les meilleurs. C'est donc, je suis rentré vraiment comme le petit chose, mais dès la troisième année, je savais que j'avais toutes les clés pour réussir.
Mais sur ce mémoire de troisième année de Sciences Po sur l'Allemagne, il y a déjà, à ce moment-là, est-ce une sorte de fascination pour à la fois pour l'Allemagne, pour la relation franco-allemande qui...
Ah ben, j'avais appris l'allemand en première langue, j'avais fait des séjours en Allemagne à l'âge de 15 ans. Mmh. J'avais été à l'université de Vienne pour passer un petit diplôme d'allemand. Et je m'intéressais à la littérature allemande, à la poésie allemande, à la musique allemande, parce que je faisais du piano. Et en même temps, je voyais bien l'immense continent qui était là, quelques encablures, parce que c'est pas très loin, hein, de Belfort à Fribourg, il y a trois quarts d'heure de route.
Et en même temps qu'il avait été l'occupant.
Alors en même temps, ça avait été l'occupant, mais j'avais quand même nuancé mes perceptions. Je vais vous raconter une petite histoire. Les Allemands occupaient l'étage de l'école où nous vivions, ma mère et moi. Ma mère m'avait évidemment interdit de monter à l'étage, me disant que les Allemands avaient des bonbons empoisonnés, qu'ils l'avaient fait pendant la Première Guerre mondiale, et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils ne le fassent pas à nouveau pendant la Seconde. Donc, danger de mort, je suis quand même monté à l'étage, où les Allemands m'ont donné une orange. C'était l'époque où ils devaient être en Tunisie. Et naturellement, j'ai mangé le fruit défendu. J'ai constaté les limites de l'anti-germanisme de ma mère. Mais c'est par la méthode expérimentale.
Hein. Donc, vous disiez à l'instant que vous aviez les clés, au fond, pour réussir. Et de fait, vous vous présentez sans préparation et dites-vous, sans connaître le programme, pratiquement, au concours de l'ENA, et vous êtes reçu immédiatement.
Oui, à ma grande surprise.
Pourquoi l'ENA ? La sécurité, l'ambition de servir l'État ?
Non, pour moi, la motivation, c'est la science politique. Je veux savoir ce qu'est la politique, ce qu'est la science de la politique. L'ENA, c'est la bourse de service public qui me permet de ne pas peser trop sur le budget de mes parents.
Vous avez à peine le temps de découvrir l'ENA, même pas le temps de découvrir l'ENA, et vous êtes envoyé, vous faites vos classes à Belfort, je crois.
À Belfort.
Et ensuite,
en janvier 61.
En avril, juste après le putsch raté des généraux,
débarque à Alger, puis à Cherchel, à l'école militaire. Mmh. On forme les officiers.
Vous avez 22 ans à ce moment-là. Vous faites un choix qui est assez décisif, très vite. Vous vous portez candidat pour être chef de cabinet adjoint du préfet d'Oran. On est à ce moment-là en 1962, au lendemain des accords d'Évian. C'est un choix politique d'accompagner l'indépendance qui arrive de l'Algérie.
D'une certaine manière, oui. J'ai oublié de vous le dire, j'étais militant syndical à l'UNEF, mmh, et nous organisions des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie. Néanmoins, mon service militaire est arrivé, je devais le faire, comme l'avaient fait mes parents et mes grands-parents, donc j'ai fait mon service militaire, j'ai fait Cherchel, j'ai choisi les SAS, qui étaient les anciens bureaux arabes, pour être au contact de la population, mmh, musulmane, que j'aspirais à connaître.
Les SAS, c'était les sections de
administratives spécialisées. Mmh. Alors ma SAS était en Oranie, c'est la SAS du Crouf, à Saint-Denis-du-Sig, avec un petit poste dans la montagne à Inchurfa, où j'ai passé les derniers mois de la guerre, juste avant les événements qui ont endeuillé le Sig, parce qu'il y a eu des massacres le 18 mars.
Donc 62.
62. Mmh. Et puis les SAS ont été dissoutes dans la foulée, ça ne traînait pas. Et plutôt que de rejoindre un régiment dont la destination était d'être rapatrié en France, j'ai vu passer un appel d'offres. On cherchait des cadres pour la préfecture d'Oran. Il faut dire que les cadres mettaient leur famille à l'abri, donc il n'y avait plus personne. Mmh. Donc j'ai fait cet acte de volontariat en pensant, comme le général Lowe l'avait dit, que si l'Algérie devait devenir indépendante, mieux valait que ce fût avec la France que contre elle. Donc j'ai choisi d'aider à l'émergence de cette Algérie indépendante et j'ai été chargé des relations avec l'armée française et avec l'armée algérienne. J'ai donc connu la zone autonome d'Oran, qui a été balayée ensuite par l'arrivée de l'armée du Maroc à la tête de laquelle se trouvait Boumédienne, qui soutenait Ben Bella. Et comme ça se passait juste après les événements d'Oran, quand on dit les événements, c'est les enlèvements. J'avais moi-même failli être enlevé. Ça n'est tenu que de très peu de choses, que ça tourne mal. Hein, je suis allé avec le consul qui arrivait de Yokohama à Tlemcen pour rencontrer l'armée algérienne qui arrivait du Maroc et demander la libération de...
et Ben Bella.
Ben Bella et Boumédienne, que j'ai rencontré le 10 juillet 1962. Et nous avons obtenu la libération de 12 douzaines de pieds noirs qui avaient été enlevés.
Mais juste sur Oran 1962, c'est la pleine période de l'OAS.
C'est la pleine période de l'OAS. C'est une ville en état de rébellion, puisque à Oran il y a 200 000 pieds noirs au moins.
L'OAS, pour les plus jeunes, l'organisation de l'armée secrète, qui était au fond les défenseurs, les derniers défenseurs de l'Algérie française.
Ah ben, l'OAS tenait la ville, il nous tirait dessus en permanence. Comme nous étions au 17e étage de la préfecture régionale qui dominait la ville européenne, si on se mettait vraiment au 17e étage et pas trop près des fenêtres, on avait la chance d'échapper aux tirs, qui étaient des tirs ascendants. Mais quelquefois on était attaqué au bazooka, à la 12-7, ça faisait du bruit.
Oui, le sportif.
C'était assez sportif. Ouais. C'était assez sportif.
Avec un sentiment aigu du danger ou une forme d'inconscience?
Pas du tout. Totale inconscience. Je me rappelle avoir vu le plafond me tomber sur la tête un matin, mais ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Puis ensuite, il y a eu l'indépendance de l'Algérie, référendum le 3 juillet. 5 juillet, l'armée française est casernée. La zone autonome a disparu, ne répondent plus à l'appel, et l'armée algérienne du Maroc n'est pas encore là. Vacance totale du pouvoir, seuls les ATO, auxiliaires temporaires occasionnels, ça veut dire qu'ils n'ont aucune formation, sont chargés du maintien de l'ordre. Et ce sont ces gens-là qui, alors que je sors du port où je suis allé embarquer une tapisserie de l'Ursa, me mettent le pistolet mitrailleur sur l'estomac, culasse en arrière. Alors là, je me dis, une secousse et je suis mort. Un cri jaillit de l'autre côté de la rue, et l'ATO qui tenait sa mitraillette oriente sa mitraillette de l'autre côté. Donc je
vous sortez du champ de tir.
Je prends mon plus beau sprint, hein, que j'ai jamais fait, pour regagner ma voiture qui est garée pas très loin de là. Bon, c'est à 5 heures de l'après-midi seulement que les ordres arrivent de Paris de faire sortir les compagnies gendarmes mobiles et que la chasse à l'Européen s'interrompt.
Et néanmoins, vous restez jusqu'à la fin de l'année, si j'ai...
C'est mon service militaire, et on me demande de rester avec le consul, qui est d'abord Irli, ensuite Chaillé.
Et vous continuez à entretenir ou à établir plutôt des relations avec les nouvelles autorités algériennes, ou comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Ben, nous avons des réunions périodiques pour faire le point de la situation en matière de sécurité, et puis je suis chargé de faire des recherches aussi.
De personnes disparues.
Pour retrouver ceux qui ont disparu. Alors, peut-être que les listes ne correspondaient pas tout à fait à la réalité. Disons que la plupart de ces recherches sont restées infructueuses. Mais je pense qu'un certain nombre de gens sont passés à Alicante, ou alors ont embarqué, avec les moyens que nous mettions à disposition, des pieds noirs qui n'avaient pas encore pu quitter l'Algérie. Ils ont fait venir Lafayette, qui était le porte-avions de l'époque, donc qui embarquait plusieurs milliers de personnes sur son pont. Voilà, c'était une période très agitée.
Si je puis dire, le passage à l'âge adulte pour vous.
Bien, j'ai appris à juger les gens autrement que sur leur grade ou leur formation. J'ai pu voir quand même des gens qui prenaient des risques. Et puis, y a une guerre civile algérienne, et comme il y a eu une guerre civile française. Donc, pour moi, la guerre civile, c'est quelque chose que j'ai vu de près et que je crains, parce que je vois le déchaînement des passions, la haine, l'aveuglement, le sang qui coule, et j'ai vu le sang couler beaucoup.
Le retour à Paris et à l'ENA a dû être quelque chose d'assez saisissant, d'assez brutal.
C'était très brutal. Alors, j'ai d'abord vu le directeur des études expliquer que l'administration fonctionnait comme un circuit électronique. Ça m'a paru totalement surréaliste. Parce que pour moi, dans la vie, les gens fonctionnent avec leur courage, avec leur initiative, avec ce qui les tient au corps, ce qui fait sens dans leur existence. Et cet univers un peu déshumanisé que je découvrais m'a sincèrement refroidi. Je suis reparti en stage à Alger. C'est un stage de décompression qui m'a mis au contact de hauts fonctionnaires que j'ai rencontrés à nouveau par la suite. Puis j'ai fait mon deuxième stage à Vannes, dans le Morbihan, au contact d'un préfet. Je raconte toujours, pour faire rire, que j'ai surtout appris à verser le vin en donnant un coup sec à la bouteille pour éviter que la goutte de vin ne tombe sur la nappe. Que c'était là ce que j'avais appris à l'ENA.
Les bonnes manières.
Au moins servir le vin sans tacher la nappe.
Ça se résume à ça ?
Presque. Vous savez, l'ENA est un concours d'entrée, difficile, enfin, en principe, et puis un concours de sortie, où les gens se battent pour sortir dans les grands corps, qui prédétermine la suite de leur carrière.
Vous dites que c'est une caste qui se prend pour une élite.
C'est ce que je ressens. Et pourtant, à l'époque, les pantouflages n'étaient pas encore très nombreux, mais l'ENA est devenue une caricature par rapport à ce que nous la décrivions, les trois auteurs de l'énarchie, puisque nous avons inventé le mot en 1967, c'était Alain Gomez, Didier Motchan et moi-même.
Et vous-même.
Donc on a fait ce petit
pamphlet. Sous le pseudonyme de Mandrin.
Voilà, sous le pseudonyme de Mandrin, et le livre s'intitulait « L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise ».
C'était un brûlot terrible, hein.
Assez rigolo.
C'est sans pitié.
Il y a quelques descriptions qui pour moi sont quand même très amusantes. C'est du vécu.
Mais autant vous avez trouvé votre compte dans l'enseignement du lycée et de Sciences Po ensuite, autant là, vraiment, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, pour la première fois, vous n'êtes pas pris d'excellence, vous n'êtes pas premier, vous sortez 42e. Et vous êtes envoyé, si je me souviens bien, à la DREU, la Direction des Relations Économiques Extérieures, du ministère, qui dépend du ministère des Finances.
Je suis envoyé au Bureau des Études.
Bureau des Études.
Qui fait des statistiques. Le chef de bureau s'appelle Didier Motchan.
Et c'est là que vous rencontrez Motchan, d'ailleurs.
Absolument.
Mais tout ça, vous avez, au fond, vacciné contre l'idée de faire une carrière dans la fonction publique. Ça vous a vraiment convaincu d'entrer en politique?
Disons que je n'ai plus eu envie de m'agréger à la caste des hauts fonctionnaires que j'admirais tant quand je faisais Sciences Po. J'ai à ce moment-là adhéré au Parti Socialiste avec Alain Gomez et nous avons créé le CRS, donc nous étions sur une toute autre ligne de vie.
Vous venez de le dire, vous vous engagez à ce moment-là au Parti Socialiste, mais c'est une autre étape cruciale, celle de l'aventure du PS, la reconstruction du PS, de l'union de la gauche, et c'est une aventure dont nous reprendrons le récit demain, à demain donc.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Gérard Courtois avec Jean-Pierre Chevènement. À voix nue. Réalisation Marie Placet, prise de son Frédéric Quérou, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.